C'est ce qui nous est rapporté dans Apocalypse, chapitre 19 et 20, qu'on va voir aujourd'hui. Et donc, la dernière fois, vous vous rappelez, on a vu la chute définitive de Babylone, la grande prostituée, avec la fin d'une culture, la fin d'une civilisation contre Dieu, avec les lamentations qui ont suivi. Mais aux lamentations sur terre, eh bien, succède une joie sans pareil au ciel. Un quadruple alléluia à Dieu pour son salut, pour sa justice et parce qu'il va régner enfin. Donc je vous propose de lire Apocalypse, d'abord le chapitre 19 pour commencer. Apocalypse chapitre 19 et je vais prier avant. Seigneur, nous te remercions encore pour ta parole parce que nous connaissons, Seigneur, la fin de l'histoire. Seigneur, tu nous l'as révélée. Quelle grâce, Seigneur, de pouvoir, voilà, savoir comment les choses vont se terminer et aussi commencer, Seigneur, ce nouveau commencement avec toi. Seigneur, nous te demandons de nous ouvrir le cœur et l'intelligence à ta parole, de la recevoir simplement, Seigneur, et voilà, qu'elle agisse dans nos cœurs pour être équipée, Seigneur, dans les temps que nous vivons, pour être toujours plus comme toi et pour être une lumière dans ce monde. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Je vais lire. Apocalypse 19. Après cela, j'entendis comme une voix forte d'une foule nombreuse dans le ciel qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son inconduite. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le réclamant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia ! Et sa fumée monte au siècle des siècles. » Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia ». Une voix sortit du trône « Louez notre Dieu, vous, tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands ». Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme la voix de grandes eaux et comme la voix de fort tonnerre disant « Alléluia », car le Seigneur Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Tout-Puissant a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont les paroles véritables de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Puis je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont une flamme de feu. Sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît sinon lui. Et il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc et pur. De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il les fera paître avec un sceptre de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Je vis un ange debout dans le soleil. Il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Je vis la bête, les rois de la terre et leur armée, rassemblés pour faire la guerre à celui qui monte le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait opéré devant elle les signes par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de sa bête et qui se prosternaient devant son image. Tous deux furent jetés vivants dans l'étang de feu où brûle le soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Jusqu'ici, amen, la parole de Dieu, pour le moment. Oui, donc Dieu, juste et véritable, établit son règne. Ce Ce que nous allons voir, successivement, comment est-ce qu'il établit son règne? Premièrement, il établit son règne d'abord par les noces de l'agneau avec son église, son épouse. Deuxièmement, il établit son règne par le retour de Christ avec son épouse, l'église, avec qui il règnera et pour qui il combattra. Et troisièmement, Dieu établit son règne par sa victoire totale sur le diable et ses acolytes, et sur la mort, et par le jugement dernier sur tous les morts. Donc premièrement, voyons que Dieu établit son règne par les noces de l'agneau avec son église. Une louange formidable au ciel. Venant d'une grande foule au ciel. Cette grande foule, c'est l'église qui a déjà été enlevée avec les 24 anciens et les 4 êtres vivants qui environnent le trône de Dieu. Par opposition à Babylone, la femme prostituée, imposteur qui avait séduit les nations, eh bien le Seigneur présente sa vraie épouse, qui est toute l'Église. Dieu règne, il a toujours régné, il règnera toujours, parce que Jésus est ressuscité. Mais ce règne commence de façon vraiment visible par un événement que Dieu a choisi, les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, le Fils de Dieu, avec son Église sans tache ni ride. C'est le début d'un nouveau commencement. Et c'est pas la fin de tout, la chute de Babylone. C'est le début d'un nouveau commencement. Le verset 7 nous dit « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Voilà, jour de noces, on se prépare, c'est un jour de joie, n'est-ce pas? On a assisté à un mariage récemment, et même si on n'était pas nombreux, c'était un jour de joie. « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Toute l'Église est appelée à se préparer, elle-même, avant le grand jour glorieux où le mal sera complètement éradiqué. Est-ce que vous vous préparez aux noces de l'agneau? Est-ce que nous nous préparons, nous, son Église, aux noces de l'agneau? Avant son mariage, une fiancée se prépare. Elle se fait belle, prépare sa robe, et une fiancée ne va pas flirter avec d'autres avant son mariage. Pour nous, l'Église, ça serait absurde de fraterniser avec ceux que nous allons juger demain. Alors, comment pouvons-nous nous préparer? Comment nous préparer? Eh bien, comme la mariée, la future mariée prépare sa robe de mariée, nous sommes appelés à nous préparer par nos habits de noces que le Seigneur nous donne. C'est lui qui nous donne nos habits de noces. Et ces habits, eh bien, le Seigneur nous dit quels sont ces habits. Verset 8, « Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. » Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Quel contraste avec la tenue tape à l'œil de la grande prostituée. La robe de mariée de l'Église, faite de fin lin, qui symbolise quoi? Les œuvres des chrétiens, nos œuvres. Des œuvres qui sont parfois faites dans l'ombre, dans des tout petites églises, aussi dans les grandes. Des œuvres parfois loin des projecteurs. Alors, on se prépare en marchant à contre-courant de Babylone, en marchant par l'esprit et en pratiquant de bonnes œuvres. Voilà nos habits de noces. Et puisque c'est le Seigneur qui nous donne notre habit de noces, eh bien ces œuvres représentées par cette robe de fin lin, ces habits de fin lin, ces œuvres, elles sont données par le Seigneur, elles sont préparées par le Seigneur, ce qui est dit en Éphésiens 2, 8 à 10, que je relis, parce que la place des œuvres, elle est vraiment, les œuvres sont remises sont vraiment remises à leur place. La place des bonnes œuvres. Éphésiens 2, 8 à 10, que je relis, parce qu'on l'a déjà lu plusieurs fois. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Nos habits de noces, ce sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées et que Dieu veut nous en revêtir. Mais il y a aussi des œuvres qui peuvent sembler bonnes d'apparence, comme par exemple faire l'aumône, ou des œuvres qui sont peut-être visibles, non pas que toutes les œuvres visibles soient mauvaises, mais si ces œuvres sont faites pour nous assurer notre propre justice, pour nous faire voir finalement, et pour prétendre mériter quoi que ce soit, alors ces œuvres, la Bible les compare à quoi ? À un vêtement qui est souillé. À un vêtement souillé. Je relis Ésaïe, chapitre 64, verset 6. Quand on a cette attitude de faire des bonnes œuvres pour se montrer, pour mériter quelque chose pour notre propre gloire, voici comment la Bible appelle ces œuvres. Ésaïe 64, verset 6. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Alors il y a les bonnes œuvres. Celles-là, elles sont faites en Christ, elles ont été préparées par Christ. Et il y a les mauvaises, celles qui sont faites pour notre propre gloire. L'ange a dit d'écrire la bénédiction sur la mariée. Verset 9, écrit, « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Les écrits restent, d'autant plus que ce sont les paroles véritables de Dieu, nous dit le texte. Le texte lui-même, parole de Dieu, nous dit que ce sont les paroles véritables de Dieu. Lorsqu'on reçoit une invitation, on la reçoit à notre nom, n'est-ce pas ? Une invitation à un mariage ou à une fête, ou on la reçoit à notre nom. Est-ce que vous avez accepté l'invitation de Dieu pour les noces de son Fils ? Si oui, vous avez des raisons d'être heureux. Êtes-vous heureux de son invitation ? L'apôtre Jean, lui, il était tellement heureux qu'il a envie d'adorer l'ange. Mais non, adore Dieu. L'ange est juste un compagnon de service. Voilà qui nous rappelle que nous, l'Église, nous ne sommes que des serviteurs. Service, serviteur, le mot est répété au verset 2, 5 et 10, trois fois. Et l'ange est le compagnon de service de nous, de l'Église. Et quel est notre service ? Notre service est de rendre témoignage à la personne et à l'œuvre de Jésus. Puis Jean a la vision de quelqu'un monté sur un cheval blanc. Il s'agit de Jésus qui revient enfin établir son règne sur la terre, mais pas seul. Les noces ont eu lieu, il ne revient pas seul. Il revient avec son armée, montée aussi sur des chevaux blancs. Jésus revient avec son épouse. Mon deuxième point, Dieu établit son règne par le retour de Christ avec son Église, avec qui il règnera et pour qui il combattra. Jésus revient et avec son épouse. Toute son Église, toutes. Les croyants enlevés au ciel et ceux qui y sont déjà, de tous les temps, pour régner avec elle sur la terre, selon ses promesses que nous régnerons avec lui. Jésus est appelé fidèle et véritable, il tient ses promesses. Parce qu'il tient une autre promesse de revenir pour rendre justice à son peuple, pour rendre justice à son peuple. Il a plusieurs diadèmes, il porte plusieurs noms, parole de Dieu, roi des rois et seigneur des seigneurs. Rien n'échappe à ses yeux perçants. Il est le juste juge. Et il a encore un nom. Il a encore un nom que personne ne connaît, sinon lui. Et son nom nouveau sera gravé sur les croyants qui régneront avec lui. Voir Apocalypse 3:12. Alors, si on pense tout connaître de Christ, si vous pensez tout connaître de Christ, eh bien, non, on a encore à apprendre de lui. On ne connaît pas son nom nouveau. Son nom sera nouveau dans le sens que il n'est plus seulement le sauveur. Il n'est plus seulement sauveur et amour pour nous, pour les sauver. Mais il sera le juge pour les non-croyants. Est-ce que vous vous imaginez régner avec Christ ? Dieu dit que nous régnerons. Est-ce que vous arrivez à vous projeter ? Est-ce que vous vous imaginez régner avec Christ à ce moment-là ? C'est ce qui se passera. Parfois, on a peut-être du mal à se projeter. Non, nous ne connaissons pas encore Christ parfaitement. L'Église sera alors purifiée et unie. Une. sainte et véritable. Et elle forme l'armée de l'Éternel et suit le Christ, conduite et fortifiée par lui, triomphante, invincible, pour marcher vers le grand combat, le grand conflit final contre les hordes du diable qui seront anéanties. Par quoi ? Par un mot de celui qui est là, parole de Dieu, par Jésus. Jésus est vêtu de son manteau trempé de sang. Ce qui n'est pas le cas de son armée. Son armée, l'Église, elle est vêtue de fin lin, blanc et pur, verset 14. Il n'y aura pas de bagarre entre le peuple de Dieu et le peuple de Satan. Ne refaisons pas la même erreur que nos prédécesseurs, par le passé, qui ont voulu convertir les gens par la force, comme lors des croisades, par exemple. Jésus a bien dit en Jean 18, verset 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. » Ce qui est rassurant pour nous, frères et sœurs, c'est que nous n'avons et nous n'aurons pas à exercer la force. Jésus sera le seul à combattre et attacher son vêtement de sang. Un passage dans l'Ancien Testament fait référence à cet événement. En Ésaïe chapitre 63, verset 3. Ésaïe chapitre 63, verset 3, que je vais lire, et qui s'applique au Messie. J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Ce sang qui est sur le vêtement de Jésus, c'est celui de ses ennemis, qui auront refusé son sang versé sur la croix, pour eux. Ce sang, il s'agit du sang doublement versé, celui de Jésus et celui des croyants qu'ils ont tués. Eh bien, ce sang finira par retomber sur eux. Dieu est juste, 100% et 100%. 100% CENT et 100% SANG. Nous, l'Église, nous ne sommes pas des guerriers. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de combat à mener. Nous ne sommes pas des guerriers. Nous sommes appelés à être quoi ? À être des serviteurs, actifs et persévérants. Et je te remercie, Brigitte, pour ton témoignage, parce que tu as rappelé quel est notre rôle. Nous sommes des serviteurs, appelés à être au service les uns des autres. Galates, fin du verset 5, fin du verset 13 nous dit, par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Si nous mettons en pratique cette parole dans l'Église, quel témoignage. Il y a du travail. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de combat à mener. Notre combat à nous, il n'est pas contre la chair et le sang. Notre combat à nous, il se situe dans la prière. Il se situe dans la prière. Et que nous croyons que Dieu entend nos prières. Oui, prions pour nos autorités, pour nos familles. C'est notre combat. Alors déjà, vous savez, vous vous rappelez le trio satanique ? Le diable, la bête et le faux prophète ? Eh bien déjà, la bête et le faux prophète sont jetés vivants et sans jugement dans les temps de feu et de soufre qu'est l'enfer. Et les autres sont tués par l'épée acérée à deux tranchants de celui qui est la parole de Dieu. Ils sont mangés par les oiseaux. Eux qui n'ont pas voulu se nourrir du Christ, ils sont mangés par les oiseaux, qu'ils auraient dû dominer selon le mandat initial de dominer sur les oiseaux du ciel dans Genèse. Ce sont les oiseaux qui vont les manger, qui vont manger leur chair. Eux qui n'ont pas voulu se nourrir du Christ, ils seront mangés par les oiseaux. Ils ont suivi de mauvais chefs. Comme quoi, il ne suffit pas d'obéir bêtement, toujours à tous les ordres d'un supérieur, si ces ordres sont contre Dieu. Puis un événement capital se produit. Lisons la suite du chapitre 20 de Apocalypse. Je vais lire le chapitre 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable, et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Je vis des trônes. À ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu. Et de ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête, ni devant son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis. Devant sa face s'enfuirent la terre et le ciel et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre furent ouverts, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. La mer donna les morts qui s'y trouvaient. La mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient, et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Amen. Jusqu'ici la parole de Dieu. Mon troisième point, Dieu établit son règne par sa victoire totale sur le diable et ses acolytes et sur la mort. Et par le jugement dernier sur tous les morts. Le diable, appelé de ses 4 qualificatifs pour être sûr qu'il s'agit bien de lui. Le dragon, serpent, diable et accusateur. Le diable est lié et mis en prison dans l'abîme scellé, fermé, non seulement fermé, mais scellé. Il ne peut plus rien faire. Ce qui inaugure une période de paix de 1000 ans, ce qu'on appelle un millénium. Le mot n'est pas dans la Bible, mais on a donné à ce nom-là le millénium. 1000 ans qu'on peut prendre littéralement ou pas. Là-dessus, il y a plusieurs avis. Qu'il est bon d'écouter. En tout cas, 1000 ans, ça évoque un temps qui est très long. Où le Christ, avec son épouse, l'Église, régneront sur terre. Un temps de paix et un temps de prospérité pour elle. Cependant, toutes les épreuves de l'Église ne sont pas encore terminées. On va le voir. Alors là aussi, plusieurs avis. Il y en a plusieurs, effectivement, sur ce millénium, mais c'est pas une raison de se disputer. Il faut juste entendre les avis et chacun se fait sa propre opinion. Et je vous dirai la mienne. Alors déjà, certains prétendent que nous sommes déjà dans ce millénium parce que Christ règne depuis sa résurrection. En effet, certains prétendent que nous sommes déjà dans ce millénium, oui, dans certains milieux, parce que Christ règne depuis sa résurrection. En effet, Jésus règne déjà. Amen. Et tout pouvoir lui a été donné, déjà, amen, depuis sa résurrection. Mais ce règne n'est pas encore établi sur la terre. Donc il y a plusieurs avis là-dessus. Personnellement, je crois que cette période de 1000 ans est encore à venir. Parce que je ne vois pas le diable lié dans ce monde. Quand on voit les similitudes de Babylone, qu'on a vues la dernière fois, les similitudes de Babylone avec notre société, je vois le diable encore agir dans notre société. Mais nous ne devons pas le craindre. Jésus l'a vaincu. Le mal est bien présent dans notre monde. Et certains milieux, aujourd'hui, visent à instaurer le royaume de Dieu par des manœuvres politiques, notamment avec Israël. Mais le règne de Dieu ne sera pas amené par des améliorations progressives de la société. Le règne de Dieu ne sera pas amené par des améliorations progressives de la société. Le règne de Dieu arrivera à la fin des temps, par un jugement, par des jugements divins. Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Le diable est encore actif. Mais nous avons autorité sur lui en Jésus-Christ, qu'il a vaincu par sa mort et sa résurrection. Il est encore actif, mais nous pouvons le vaincre. Le diable n'a pas pu empêcher un chrétien de devenir chrétien. Si nous sommes là, c'est que Jésus a été le plus fort. Le diable n'a pas pu empêcher un chrétien d'être devenu chrétien en venant à Christ dans la repentance et dans la foi. Parce que Christ règne déjà, oui. Le royaume de Dieu, il est déjà là, mais pas encore là. C'est ça là, qu'on a parfois du mal à saisir. Il est là, mais pas encore. Il est déjà là et pas encore. Parfois, on entend l'expression « déjà et pas encore ». Il est déjà là, mais pas encore là. Jésus a dit aux pharisiens en Luc 17, 21, « Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Il parlait de lui-même. C'est lui, Jésus, le royaume de Dieu. Alors avant de se poser la question si Jésus règne déjà dans le monde, il y a une question plus prioritaire à se poser. Jésus règne-t-il déjà dans ton cœur? C'est là qu'il veut régner en premier. Benjamin Franklin a dit, Benjamin Franklin c'est un des pères fondateurs de l'Amérique, hein, si je me rappelle bien, il a dit, quelqu'un qui n'a pas appris à obéir ne saura pas commander. Quelqu'un qui n'a pas appris à obéir ne saura pas commander. Nous sommes appelés à régner avec Christ, l'Église. Et avant ça, nous avons besoin d'apprendre à obéir pour mieux régner. Jésus est-il non seulement ton sauveur, mais est-il aussi ton roi? Le Seigneur de ta vie à qui tu obéis? Si oui, alors oui, le royaume de Dieu est déjà là. Et tu es apte à régner avec lui. Et même, tu es déjà ressuscité avec Jésus. Déjà! C'est la parole de Dieu qui le dit. Éphésiens 2:6 nous dit, il, donc Jésus, nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Oui, nous avons, tous chrétiens, nous sommes déjà ressuscités. Il s'agit là d'une résurrection spirituelle, pas corporelle, spirituelle. Le verset 6, lui, de notre passage de l'Apocalypse, parle, lui, de la première résurrection qui, à mon avis personnel, est une résurrection corporelle, physique, des corps, parce qu'il est question de la, il est fait mention des âmes décapitées qui sont mortes sous la hache. Sont concernés, je le crois, tous les chrétiens, ceux enlevés au ciel et ceux qui sont morts en martyrs ou pas. Ceux qui sont restés fidèles à Jésus sans marque, sans avoir été marqués de la marque de la bête. L'apôtre Jean les voit s'asseoir sur des trônes. Il leur est donné le pouvoir de juger. Ils sont heureux et saints et ils régneront avec Christ pendant les 1000 ans. 1000 ans au bout desquels Satan sera relâché. Sur ordre de Dieu. Dieu qui reste souverain. Et on peut se demander, mais pourquoi? Pourquoi? Ça va tellement bien. La félicité sur terre, le bonheur. Pourquoi? Réponse, verset 3, il le faut. Il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Il s'agira d'un dernier test, sur les humains, sur l'homme. Que va-t-il se passer à ce moment-là? On peut penser, mais c'est bon. Après avoir vécu une période si heureuse et si longue avec Dieu, avec son peuple, le bonheur parfait, après avoir goûté à la félicité, c'est bon, les hommes ne voudront plus retourner en arrière. Eh bien, détrompons-nous. C'est là que l'âme humaine montrera toute sa noirceur, par une dernière révolte contre Dieu, menée par Satan, délié, pour un temps. Satan qui réussira à séduire encore les nations, d'où sortiront Gog et Magog. Alors, on peut interpréter Gog comme étant le chef de Magog, Magog étant la nation, enfin les peuples qui vont se liguer contre Dieu. Ils sont cités, Gog et Magog, aussi dans l'Ancien Testament, en Ézéchiel 38 et 39. Donc pour une ultime bataille contre Dieu, pour se liguer contre la ville sainte et l'Église. Bataille perdue d'avance. Dieu enverra son feu du ciel pour les dévorer et jettera le diable en enfer où seront déjà la bête et le faux prophète pour un tourment éternel, verset 20. Ils seront pas détruits, ni jugés, mais ils seront tourmentés pour toujours. C'est la fin définitive du trio satanique, le diable, la bête et le faux prophète. Et l'homme rebelle qui n'aura pas accepté que Christ règne sur lui, qui aura goûté à la félicité, à un règne parfait avec le Christ, eh bien l'homme rebelle aura montré au grand jour qu'il n'a plus d'excuses et que Dieu est juste et que l'enfer est juste. L'enfer, c'est la séparation définitive avec Dieu. Eh bien ce dernier test aura montré que l'enfer est juste parce que Dieu est juste. Et ce dernier test aura montré que voir avec ses yeux ne suffit pas. Les hommes auront vécu 1000 ans de félicité, de bonheur avec Dieu. Et pour certains, ça n'aura pas suffi. Il n'y aura pas d'excuse. Ce dernier test aura montré que voir avec ses yeux ne suffit pas, parce qu'il faut une nouvelle naissance. Il faut une nouvelle naissance dans le cœur. Il faut une nouvelle naissance en se détournant de ses péchés et en croyant en Jésus, le Fils de Dieu, mort sur la croix pour nous et ressuscité. Sans cette nouvelle naissance, même si on voit des choses magnifiques, ça ne suffira pas, ça ne changera pas le cœur de l'homme. Les hommes, même en voyant ce royaume, certains ne seront pas convertis. Et là encore, vous avez remarqué, le peuple de Dieu n'aura pas à combattre. C'est Dieu qui envoie son feu du ciel. C'est Dieu qui combat pour que la victoire soit complète. Et pourquoi ? Pour que toute la gloire lui revienne. Pour que toute la gloire lui revienne. Et puis, dernier épisode. Eh bien, après l'élimination du trio satanique, viendra le jugement dernier de tous les morts, de tous les temps. Et oui, tout le monde meurt. Je veux dire, tout le monde est égal devant la mort. Tout le monde passe par la mort, n'est-ce pas ? Les riches comme les pauvres, les grands comme les petits. La terre et même la mer rendirent leur mort. Même la mer. Ceux qui sont morts en mer, ils n'ont pas de sépulture sur lesquelles les familles peuvent se recueillir. Tout le monde va ressusciter. La terre et même la mer rendirent leur mort. Et là encore, il y a encore plusieurs avis. Pendant ce jugement dernier, qui seront ceux qui vont se retrouver devant le trône de Dieu ? Est-ce qu'il s'agit uniquement des morts non-croyants qui vont ressusciter après les 1000 ans ? Ou bien s'agit-il de tout le monde ? Seront-ils avec les croyants qui, eux, seront déjà ressuscités avant le millénium ? Ça va ? Voilà, plusieurs avis qui sont respectables. Qu'on entend, voilà, c'est à chacun de se faire son opinion. En tout cas, si on prend certains passages, je penche pour la deuxième option. Je crois qu'effectivement, il s'agira d'un jugement à la fois des croyants et des non-croyants. Et je précise. 2 Corinthiens 5, verset 10 nous dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Tous. Mais attention, je vais préciser. Ecclésiaste 12, 14 nous dit « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Ecclésiaste 12, 14. Dieu est juste. Tout ce que nous faisons de bien et de mal est consigné, mieux qu'un ordinateur ultra puissant. Tout est consigné, enregistré dans des livres souvenirs. Vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu parler des cold cases. Vous savez, les cold cases, ce sont les affaires non élucidées, non classées. Parce qu'effectivement, eh bien, il n'y a pas eu d'éléments qui ont permis de trouver les coupables. Là, il n'y aura pas de cold case. Il n'y aura pas d'affaires non élucidées. Toutes les pensées cachées seront dévoilées, même celles qu'on a oubliées. Aussi bien Hitler que Néron, que le banquier qui aura fraudé sur sa feuille d'impôt passeront en jugement. Et là, on ne pourra pas dire que c'est la faute du diable. le diable sera éliminé. Fini. Non, chacun sera responsable pour lui-même, d'après les bonnes ou les mauvaises œuvres qu'il ou elle aura faites et qui sont consignées dans des livres. Mais, un grand mais, le croyant qui a compris que ses bonnes œuvres ne suffisaient pas pour hériter le salut, le croyant qui a accepté le salut en Jésus-Christ, mort pour lui et ressuscité, lui, eh bien, nous ne serons pas condamnés. Nous ne serons pas condamnés. Jean 5, 24 nous dit, c'est Jésus qui dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En effet, un autre livre que le livre des œuvres sera ouvert. Il s'agit du livre de vie. Ce livre de vie qui contient les noms du peuple de Dieu, avec la déclaration de leur repentir et de leur foi, et de leurs bonnes œuvres, toutes les bonnes œuvres qu'ils auront faites. Et non seulement Dieu, le juste juge, oublie les mauvaises œuvres, les mauvaises actions des croyants, qui sont consignées dans les autres livres, mais il récompensera les croyants d'après leurs bonnes œuvres. Non seulement il oubliera nos mauvaises pensées, nos mauvaises actions dont on s'est repenti, et parce que nous avons placé notre confiance en Christ, mais il nous récompensera d'après nos bonnes œuvres. Et de même qu'il y aura différents degrés de châtiment pour les non-croyants, Dieu est juste, il y aura différents degrés de récompense pour les croyants. Dieu est juste. Et la mort, le dernier ennemi, sera jeté dans les temps de feu, ainsi que tous ceux non inscrits dans le livre de vie, les non-repentis qui n'ont pas cru à l'évangile de Jésus-Christ. C'est la seconde mort. La seconde mort que nous autres croyants n'avons pas à craindre. Une seconde mort qui est terrible. Une seconde mort qui est éternelle. Une souffrance éternelle en enfer, avec une éternité de regrets et d'amertume. Une amertume qui ronge comme des vers. Il est question de vers en enfer. Les vers, ça ronge. L'amertume, ça ronge. Vous voyez, Marc 9, 48, où il est question de vers. Nous mourrons dans cette seconde mort que ceux qui n'auront pas voulu que Jésus meure pour eux. Nous mourrons que ceux qui n'auront pas voulu que Jésus meure pour eux, que Jésus meure à leur place. Alors votre nom est-il inscrit dans le livre de vie grâce à l'œuvre de Christ ? Pour vous, à la croix, pour nous. Si oui, ce n'est pas la mort éternelle qui vous attend, mais c'est la vie éternelle. Avec la joie éternelle de noces éternelles avec l'agneau de Dieu. Sinon, il est encore temps d'accepter son invitation à ses noces. Et si vous l'avez déjà fait, peut-être parfois vous êtes un peu remonté. Nous sommes dans un monde difficile parce que quelqu'un vous a fait du tort. Est-ce que vous avez envie d'emmener votre employeur au prud'homme parce que vous avez été victime d'une injustice? Je l'ai entendu il n'y a pas longtemps par quelqu'un, une sœur. On la voyait remonter, elle était victime d'injustice apparemment. Eh bien, ne nous vengeons pas. La vengeance appartient à Dieu. Il est juste. Ces livres sont là pour nous rappeler qu'il est juste et qu'il fera passer toute œuvre en jugement. Et déjà, nous pouvons nous attendre à lui. Alors, tenons bon dans la foi en Jésus. Dieu est juste. Je vais prier. Seigneur, je te remercie, oui, de nous avoir encore montré la fin de l'histoire, Seigneur, et qui est le début d'une autre histoire avec toi, merveilleuse celle-là. Seigneur, merci parce qu'on peut déjà vivre ta délivrance ici-bas. Oui, le diable est encore actif, mais tu l'as vaincu à la croix. Et Seigneur, je prie que je proclame ta victoire. Nous proclamons ta victoire, Seigneur, à la croix pour nos péchés. Ta victoire sur la mort, sur le diable et sur nos péchés. Tu as fait tout cela à la croix. Tu es ressuscité. Et Seigneur, merci parce que même si le diable agit encore, nous sommes victorieux, plus que vainqueurs par Jésus qui nous a aimés. Seigneur, oui, nous te demandons de nous donner Seigneur, toute la les armes que tu nous as données par la prière, la parole, ta parole, pour lutter de la bonne manière, Seigneur, contre les ruses de l'ennemi, pour discerner ses œuvres, Seigneur, et ne pas nous laisser séduire par lui. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Et je prie, Seigneur, oui, que nous soyons patients. Tu es juste, Seigneur, tu nous l'as rappelé. Seigneur, oui, Seigneur, nous te demandons de nous garder fidèles, parce que tu es fidèle, Seigneur. Et je te prie aussi, Père, de nous aider à nous vêtir de ce fin lin, Seigneur, qui sont les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Aide-nous à rentrer dans ces bonnes œuvres, Seigneur, pour témoigner de toi, pour briller de ta lumière, pour que le monde croie, Seigneur, que tu es Dieu et que tu as donné ta vie pour nous, Seigneur, et qu'il se tourne vers toi. Tu sais les temps que nous vivons, et chaque jour nous rapproche un peu plus de ton retour. Que nous soyons prêts, Seigneur, que nous nous préparions déjà. Au nom de Jésus. Amen.